voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Nicole El-Karoui. Ce soir, le plaisir de l'abstraction.
Nicole El-Karoui, vous êtes une grande mathématicienne française de renommée internationale. Votre domaine de prédilection, les probabilités. L'aléatoire vous passionne. Oui, les processus scolastiques, le mouvement brownien auquel se sont frottés d'immenses scientifiques, Lévy, Einstein, Itô, mais la bosse des maths se cultive aussi au féminin. Vous en êtes la preuve vivante, indéniable, règles et équations à l'appui. Responsable du master probabilité et finances de Paris 6 et professeur de mathématiques financières à l'école polytechnique, Nicole El-Karoui, vous avez formé des générations d'ingénieurs qui s'arrachent à prix d'or dans toutes les salles des marchés du monde. Votre vie a été consacrée à modéliser le hasard et vous avez reçu la Légion d'honneur pour ce service rendu aux sciences en 2006. Bonsoir Nicole El-Karoui.
Bonsoir Nijma.
Être mathématicienne, cela fait de vous un être à part ?
Dans mathématicienne, on va distinguer deux choses. Mathématicien, mathématicienne, celui qui fait des mathématiques sans différence de genre, et puis le fait d'être une femme. Comme mathématicienne, ce que je peux dire, c'est que je trouve que la communauté a toujours une dimension un petit peu suffisante, même si souvent les gens sont super sympathiques, parce que c'est comme si on avait un pouvoir spécial qui venait de la logique des mathématiques en général, et surtout maintenant cette impression que on peut rendre compte d'un nombre infini de choses grâce aux mathématiques et que ça donne un pouvoir particulier. C'est un petit peu ce que la notion de preuve donne aux mathématiques, c'est-à-dire que les preuves qu'on fournit, elles sont incontestables. L'une des spécificités des mathématiques par rapport à la physique, c'est peut-être que c'est une question qui est au cœur de beaucoup de débats actuels, c'est la reproductibilité de la preuve. Vous donnez les mêmes éléments au point de départ, la logique mathématique va faire que tout le monde va arriver à la même conclusion. Et ça, ça donne une sorte de force ou de position spéciale dans un monde où, dans le fond, on ne sait pas toujours où est le vrai ou le faux. C'est trop tranché d'ailleurs, vrai ou faux. On est souvent entre les deux. Mais donc cette particularité des mathématiques donne un petit peu d'assurance, dirons-nous.
Vous êtes imbattable. Une fois que vous avez raison, vous avez raison.
Voilà. Bon, mais la seule question, c'est qu'est-ce qu'on a mis tout en haut dans les prémices et dans les... Voilà. Donc, tout est relatif, très sûrement. Mais par rapport à la physique, qui va être plus intéressée d'avoir des résultats qui sont confrontés par l'expérience, les mathématiciens sont assez spéciaux entre les deux. En même temps, ils ne se risquent pas trop à les voir de très près... ce qu'est le monde réel, c'est une de leurs forces et peut-être aussi limitations.
Oui, parce que les mathématiques sont appliquées en physique. Beaucoup de physiciens sont de bons mathématiciens, forcément, non ?
Oui, oui, c'est plutôt l'objectif. Voilà. Oui. Enfin, c'est une des grandes choses que j'ai appris en naviguant dans des univers assez différents, les maths pures, entre guillemets, plus des domaines d'application. C'est qu'on fait l'objectif de... On fait... ce développement, cette réflexion, en vue de quoi ? Et donc, ça, c'est assez différent entre les physiciens et les mathématiciens. Les mathématiciens, ça va être d'extraire les principes, d'isoler les concepts. C'est ce que j'ai essayé de faire beaucoup, d'ailleurs, autour des mathématiques financières. Et partant de ces concepts, on arrive à une preuve indiscutable. Si vous n'êtes pas content du résultat, il faut regarder ce que vous avez supposé au point de départ. Et ça, ça donne une certaine force. Ça peut, par moment, faire croire qu'on a une sorte de pouvoir sur le monde.
Vous n'êtes pas Jupiter.
Non, pas du tout.
Donc, vous voulez nous dire que, par exemple, vous ne pensez jamais de façon empirique ?
Quand je suis mathématicienne ou quand je raisonne en mathématicienne, non, c'est tout l'inverse. La grande force des mathématiques, c'est de j'allais dire, de décortiquer les structures, de mettre de côté le réel, en quelque sorte, pour essayer d'isoler les choses. C'est l'abstraction, les mathématiques. Et l'abstraction, c'est très fort, parce que ça vous oblige à épurer le monde, etc. Et là, c'est peut-être aussi que dans cette manière d'aborder les choses, on a aussi un sentiment un peu de capacité un peu exceptionnelle. Après, là, quand on redescend vers le monde, souvent la confrontation est assez brutale, parce que il peut y avoir une grande distance entre ce qui a été imaginé, etc. Mais la force des mathématiques, c'est que si tout le monde peut se mettre d'accord sur le point de départ, alors tout le monde est d'accord sur l'arrivée. Donc si l'arrivée ne plaît pas, il faut revenir en arrière.
Vous nous autorisez tout de même, Nicole El-Khaoui, à parler de votre trajectoire et à parler peut-être de votre expérience. Vous vous nommez actuellement Nicole El-Khaoui, mais vous êtes née Schwartz, avec un V.
Alors Schwartz, ça veut dire, oui, Schwartz, ça veut dire noir en allemand. Il y a un grand mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est Laurent Schwartz, et qui est extrêmement connu de tout le monde, qui en plus était quelqu'un d'extrêmement charmant.
Que vous connaissiez.
Alors il se trouvait que mes parents étaient les meilleurs amis de son frère à Nancy, où j'ai grandi. Quand on faisait des mathématiques, on était toujours imaginé comme la fille de Laurent Schwartz. Et évidemment, vous n'étiez jamais à la hauteur, mais ça, ce n'était pas très grave.
Parce que vous avez des conversations qui portaient sur les mathématiques en famille ?
Non, pas du tout. Donc nous étions une famille nombreuse, d'enfants assez rapprochés. Et avoir le temps de discuter mathématiques était plutôt rare. C'était plus animé que ça en général.
Vous êtes donc d'origine protestante, Nicole Schwartz.
Oui, alors ce nom de Schwartz, celui de mon grand-père et d'un arrière-grand-père, parce qu'il y a quand même une chose importante dans la structure familiale, si on veut, quand on habite Nancy, c'est que mon arrière-grand-père est venu, c'est un réfugié de la Meuse, de la guerre de 1870. Les guerres ont vraiment marqué certaines étapes de notre famille. Donc il vient comme réfugié, sans rien, et donc il a très peu de moyens. Mon grand-père fera la guerre de 14-18, en fait se mariera juste à la fin. Et mon père, ce qui fait quand même des effets de génération assez impressionnants, mon père, en 39, est étudiant en classe préparatoire, et alors ne sera pas enrôlé dans l'armée, mais sur le point de l'être, et en fait va être évacué avec toute la population nancéenne. Donc ces étapes de guerre qui ont beaucoup marqué l'Est, où on a été par moments français ou allemand, puis de nouveau français, puis de nouveau allemand, étaient quand même une référence culturelle beaucoup plus que le nom lui-même, très importante en fait dans notre famille.
L'histoire régionale, finalement.
Oui, surtout ce passage. Ma grand-mère maternelle venait de Strasbourg et aussi était. Elle nous expliquait toujours qu'elle était partie dans la France de l'intérieur. Donc les réfugiés alsaciens, quand l'Alsace est devenue allemande, se retrouvaient dans la France de l'intérieur. Beaucoup d'entre eux ont été en Algérie après. Ouais.
Et c'est cette grand-mère qui est protestante ?
Alors, elle était protestante, mais celle qui plus marquait la famille, c'est la mère de mon père. Donc, le père lui-même, aussi père dans cette généalogie, était en fait un pasteur protestant des Cévennes. Et les Cévennes, c'était l'un des lieux où s'étaient réfugiés les protestants après la révocation de l'édit de Nantes.
Et est-ce que cette origine familiale protestante se traduisait chez vous, dans votre famille, d'un point de vue culturel ?
Oui, enfin, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un élément extrêmement structurant. Mais mes parents étaient très actifs, pratiquants, pas de manière sectaire, entre guillemets, et nous avaient transmis, en fait, ce qu'ils jugeaient comme la force du protestantisme, c'était le fait qu'on devait s'approprier la religion. Ce n'était pas un message qu'on devait recevoir de l'extérieur. Et donc la tradition protestante donnait beaucoup d'importance aux femmes qui savaient lire il y a très longtemps parce qu'elles étaient celles qui transmettaient le message par la Bible, la lecture de la Bible aux plus jeunes. Et ça, c'est resté pour moi quelque chose de très important. Ce qu'il y avait aussi, parce que cette question des femmes et du savoir, c'est quand même un milieu dans lequel, naturellement, les femmes n'étaient pas distinguées des hommes par rapport au savoir. Après, le savoir scientifique, c'était un peu autre chose. Mais il y avait une composante reconnue de cet effet de transmission et de savoir-lire.
Les femmes pratiquaient une certaine exégèse, d'une certaine manière.
Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, tout le monde était prié de pratiquer l'exégèse. Donc, même petit, il n'y avait personne pour dire où était la vérité. Et je crois que ça, j'ai gardé ça toute ma vie.
Et dans votre famille, le travail est au cœur de la vie. Tout le monde travaille beaucoup.
Ben d'abord, on est 8 enfants, donc quand vous êtes 8 enfants, on s'est rapprochés, ça occupe. Ensuite, mon père est ingénieur, mon grand-père avait créé une start-up, on dirait maintenant, en créant un produit qui s'appelle le bois bacillisé. Il avait monté une entreprise qui avait grossi, et dont mon père a pris la direction plus tard. Bon, le travail, oui, c'est naturel. Ça ne voulait pas dire que les enfants étaient... bousculé, enfin mes frères préféraient jouer au foot comme tout le monde plutôt que d'aller travailler, hein. C'est vrai.
Et si nous parlions de votre apprentissage, c'est important, donc vous entrez assez jeune à l'école, je crois.
Bon, moi je vais à l'école maternelle, ouais. Et puis donc j'ai déjà 2 frères un peu plus âgés, voilà, je ne sais pas comment, mais à 5 ans, voilà, je sais lire, donc je rentre à l'école primaire parce que je sais lire et compter, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et de toute façon, la lecture était quelque chose de très ancré, enfin de très demandé d'une certaine manière. Bon, mes frères étaient moins fanas que les filles, mais ça, c'est rien de surprenant. Bon, mais enfin, à 5 ans, je ne lisais pas des romans élaborés, hein. J'étais une petite fille normale qui savait lire. Ouais.
Mais comment se passe justement cet apprentissage? Comment vivez-vous l'école?
Bon, donc il faut quand même que je rappelle que j'ai été à l'école primaire dans les années 50, puisque j'avais 6 ans à ce moment-là, que quand même l'image de l'école est complètement différente de celle qu'on voit maintenant. D'abord, il y avait les écoles de filles, les écoles de garçons. L'objectif, c'était le certificat d'études, donc le niveau jusqu'à 14 ans. À part ça, ben, les écoles, elles sont un peu plus rigides. On va plus à l'école, on travaille le samedi. Moi, j'emmène mes frères et sœurs à l'école maternelle, qui n'est pas tout à côté de la maison. Ça fait une certaine surveillance, mais la ville n'est pas aussi animée que maintenant. Donc, voilà.
Est-ce que ce sont, par exemple, des classes qui seraient des classes uniques? Parce que parfois, il arrivait à cette époque-là qu'il n'y ait qu'un instituteur pour de nombreux élèves. Vous avez vécu ça?
Alors, l'école était une école de grande taille. Il y avait plusieurs classes. Mais comme j'étais rentrée en CE1, on m'avait mis dans une classe à 3 niveaux. Donc il y avait en même temps une colonne qui faisait CP, une colonne qui faisait le CE1 et une colonne qui faisait le CE2. Donc c'est quand même une classe où on parlait tout le temps. Donc il y a toujours des gens qui travaillaient, donc il y a toujours la maîtresse qui expliquait, etc. Ça a été une grande force après quand j'ai travaillé beaucoup à la maison avec 5 enfants. J'ai pu travailler dans n'importe quelles conditions ou à peu près. Mais c'était que pour moi, ça a été quelque chose de très enrichissant. Parce qu'on pouvait picorer partout. Donc si quelque chose nous intéressait pour le niveau d'à côté, on écoutait. Si, c'était très fluide, en fait, cette transmission. Et ça a été toujours très plaisant pour moi.
Qu'est-ce que cela change de vivre comme ça dans une grande famille?
Ben, ça fait que l'apprentissage passe beaucoup par les enfants. Donc, mes frères aînés apprenaient devant moi et donc on écoute. On est assez responsable de son travail parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Et soi-même, on sert de transmission. Et quand même, j'ai souvent été une grande sœur au sens où j'ai quand même pas mal aidé au piano, aux devoirs, à des choses comme ça. Bon, mais c'était naturel.
On entend des logiques différentes aussi, peut-être. Voilà, on éprouve déjà la différence, l'altérité. Est-ce que ça ouvre une certaine plasticité d'être dans une famille nombreuse? Il n'y a pas qu'une seule voix. Si l'on a un enfant unique, on peut avoir une seule voix qui vous répond, ou deux.
Voilà, quand vous en avez huit, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'entendre un message cohérent. Le type d'apprentissage qui me paraît le plus structurant, c'est qu'en fait, vous êtes obligés de vivre ensemble. Bon, et vivre ensemble, ça demande des règles, un minimum de respect de l'autre, de tolérance. On n'avait pas tous les mêmes caractères, quelquefois c'est fatigant d'être à 8. Et ça, c'est extrêmement important. Et une des expériences que j'ai faites, c'est quand j'ai été interne plus tard, à 20 ans, en fait, j'ai découvert au bout de 3 mois que mes meilleures amies spontanées étaient toutes de familles nombreuses. Alors, pas toujours de 8, mais... comme si on retrouvait cette facilité à vivre ensemble et à s'intéresser un peu plus aux autres.
Vous lisez tôt, vous avez le goût donc d'apprendre, et vous avez donc un certain plaisir, j'imagine, à entrer au collège.
Oui. Alors, c'était à l'époque le petit lycée.
Oui, le petit lycée.
Il n'y avait pas de collège. Et quand même, je rappelle, c'est juste pour remettre dans le contexte, que dans ma classe donc, de CM2, on est rentré à 2. Au collège ou au petit lycée. Donc il y avait extrêmement peu d'enfants qui rentraient en sixième. Il y avait un examen. Ce n'est pas l'examen qui était le barrage, c'était culturellement, les filles ne rentraient pas en sixième. Et les garçons un peu plus, mais on est très loin du taux de scolarisation au collège qu'on voit maintenant. Et c'était quand même une discrimination sociale réelle. Bon, mes parents étaient ingénieurs, je crois que l'autre fille, ses parents étaient médecins. C'est surtout, c'était des gens qui avaient déjà fait des études et qui, eux, ne distinguaient pas le fait que fille ou garçon fasse des études. Mais ça a beaucoup, beaucoup changé et assez rapidement, bien que pas si vite que ça quand même. Donc il faut attendre un peu le baby-boom, les conséquences, les années... de réforme du collège dans les années 70.
Vous vous sentez chanceuse ?
Non.
Non ?
Ça n'était pas ressenti comme un échec de ne pas rentrer au petit lycée.
Et puis là, à cette époque, on fait bien sûr des lettres, un peu plus tard, du latin et du grec.
Oui, c'est-à-dire quand on est une bonne élève, on fait de l'allemand, ça c'est parce qu'on est à Nancy, puis on fait du latin en sixième et on fait du grec en quatrième. Et la bonne formation, c'est de faire du français latin grec. Et c'est ça qui est l'objectif de sélection. Donc, c'est pareil. Hein. Moi, j'adorais le grec. Je trouvais le latin un peu ennuyeux. Le grec était exactement ce que j'aimais, c'est-à-dire quand même assez fantaisiste. Les règles n'étaient pas trop absolues. Pour une mathématicienne, on peut se poser des questions. Et vous verrez que c'est pas pour rien que j'ai fait des probas, où il y a quand même toujours un peu un questionnement autour de ça. Donc voilà, j'aime bien la rigueur, qu'il y ait des structures qui permettent de mettre en place, mais pas trop. Voilà. Et un peu toute ma vie, ça aura été comme ça. Donc culturellement, dans mes lectures, dans mes goûts, dans ma manière de me comporter...
À l'époque, l'orientation des élèves se faisait par rapport au niveau en langue grecque, notamment, et latin, enfin, par rapport aux lettres. Est-ce que cela vous semble plus juste qu'aujourd'hui ce soit les mathématiques ? Est-ce que cela induit un biais moins culturel, moins socioculturel ?
Sur le biais socioculturel, ça c'est clair. Ce qui se passe, c'est que ça n'a pas vraiment joué ce rôle-là, finalement. L'autre chose peut-être qu'il faut rappeler, c'est que à cette époque, il y avait deux filières quand même de formation. Il y avait le petit lycée classique, et puis les gens qui venaient de milieux plus défavorisés, où moi j'ai travaillé ensuite avec des amis qui venaient des Ardennes, qui étaient des brillants élèves, mais de petits villages. En fait, c'est les filières d'école normale d'instituteurs qui assuraient la promotion de ces jeunes enfants. Et donc là, le latin, et bon, on faisait peut-être du latin, mais sûrement pas de grec, parce que c'était difficile à faire comprendre aux familles. Mais c'était quand même des filières plutôt littéraires qui continuaient à être promue d'une certaine manière. Les sciences n'apparaissant vraiment qu'en seconde, en fait. Donc il y a quand même une certaine nuance autour de ça, parce que, en fait, c'était très marqué culturellement, mais déjà la sélection d'entrée était implicitement marquée culturellement. Ensuite, on a pensé que les orientations plus scientifiques donnaient plus de chances à tout le monde. Ce qui, en théorie, pourrait être vrai, mais qui suppose, comme le reste, en fait, d'avoir une sorte de représentation des choses, de soutien, pas nécessairement matériel, mais d'y croire, en fait. Moi, je dis toujours que j'ai jamais fait faire un devoir à mes enfants en maths, et ils sont pas tous exceptionnels. Parce que, en fait, rien que de savoir qu'à la maison, ils pourraient trouver quelqu'un qui leur donne un coup de main s'ils avaient un problème, les rassurer et les aider à se débrouiller. Ça, c'est très important. Alors après, on a trop ou pas assez valorisé les maths. C'est une fausse question. De toute façon, on sélectionne toujours. Donc, il faudrait reposer le problème un peu différemment.
Vous le poseriez comment, le problème ?
Ben, s'intéresser plus aux individus qu'à... au mode de sélection à l'état pur. Qui compte, c'est la personnalité, c'est l'ensemble, c'est ce qu'a représenté pour un enfant d'arriver là où il est. Et mettre des couperets après très importants, ça c'est difficile. De toute façon, il faut accepter plus de diversité, plus de valorisation, enfin... Donc mon mari est tunisien, on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais on s'est pas mal intéressé à ces problèmes-là, et on voit bien les problèmes juste culturels. Est-ce que j'ai le droit à accéder à ça ? Et ça, c'est on s'est jamais suffisamment pris en compte. Peut-être les filles sont plus sensibles à ça, parce que avoir le droit d'accéder aux sciences à un niveau plus élevé, ça n'était pas évident dans la société. Et donc, on était assez sensibilisés à cet aspect des choses, que tout ne va pas de soi et que du coup, ça crée des barrages.
Vous nous dites que, d'une certaine manière, vous pensez que la sélection soit moins rigide.
Il faut surtout que, oui, qu'elle soit un peu plus différenciée et surtout qu'on soutienne les gens beaucoup plus individuellement, sans imposer... des représentations très rigides. Et bon, c'est vraiment aider les gens à mettre un petit peu sur leur route à eux, sans décider que si c'est pas comme ça, ça ne peut pas être.
Et finalement, vous nous dites donc les mathématiques, c'est une question de confiance.
Oui. Mais c'est aussi une question de faire jouer aux mathématiques et leur rôle et leur place. On a tendance à penser qu'on aidera les enfants si on leur cache l'aspect, la dimension abstraction des mathématiques. Pour moi, c'est une grave erreur. C'est souvent parce que, justement, on ne les a pas aidés à accéder à cette étape-là qu'ils se retrouvent en difficulté sans comprendre ce qu'on leur demande, ce qu'on attend d'eux. En fait, quand on a compris que... d'abstraire, ça vous donne une liberté extraordinaire, ça vous permet d'être paresseux parce que vous avez compris un truc qui s'applique à des tas de choses tout en restant exigeant et intéressant parce que les conclusions qu'on en tire ne sont pas universelles bien sûr. Cette liberté-là, on ne l'a pas donnée aux gens parce qu'on n'a pas voulu dire que faire des maths, c'est abstraire. Et l'abstraction, ce n'est pas difficile, on en fait dès le plus jeune âge. On sait qu'on compte, on appelle 1, 2, 3 et on oublie très vite que c'est une pomme ou une poire. Ça y est, vous parlez, vous dites un mot, vous êtes abstrait. Vous n'avez pas le support matériel concret. Pourquoi on ne le fait pas explicitement pour les mathématiques et donner la liberté de penser librement dans un cadre où le réel est absent pour un petit moment.
Vous, vous avez aimé la puissance de l'abstraction.
Mais ça m'a rendu libre. Et je passe mon temps à voir partout que les gens sont englués dans la réalité qu'ils cherchent à étudier. Et quand tout d'un coup vous mettez à l'étage au-dessus, c'est pas que vous avez raison. C'est que vous avez épuré le système, réfléchi autour. Après, vous essayez de redescendre, redescendre, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on a fait cet éclat que on est devenu plus fort, mais on a plus d'arguments pour réfléchir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, enfin, dans toute mon expérience appliquée, ça a été toujours un élément stratégique.
Donc finalement, la bosse des mathématiques, elle pousse comment ? Pas tout à fait à son insu. Elle pousse parce qu'on l'arrose. Peut-être que d'autres viennent l'arroser également. Vous avez eu de bons enseignants ?
Oui. Enfin, bien que les mathématiques, au lycée, quand j'y étais, c'était pas spécialement drôle. Hein. Je préférais la philo, hein. C'était plus stimulant intellectuellement. Mais ça se cultive, mais il n'y a rien qui se fait dans la facilité. Apprendre à abstraire, c'est... D'abord, quelquefois, il faut être aidé. Il y a des gens qui le font beaucoup plus naturellement que d'autres. Ça n'est aucune tare. C'est pas, voilà, c'est juste une manière de voir. Mais si on arrive à franchir ça, mais pour ça, il faut travailler aussi. Moi, j'ai toujours énormément travaillé. Parce que si je ne comprenais pas bien, ça n'allait pas. Je continue maintenant. Mes thésards, ils me disent, mais t'es insupportable. On n'arrive pas à dire qu'on a fini parce qu'il y a encore un truc que t'as pas compris. Mais cette exigence-là, à un moment, je me suis dit que le seul endroit où on la retrouvait un peu dans l'éducation, c'était avec la musique. Et faire des gammes, hein, que les gens n'aiment pas, ben, c'est comme les mathématiques. Il faut faire des exercices pour s'entraîner. Souvent, les gens n'hésitent pas à le faire pour le sport. Eh bien, il y a beaucoup d'endroits où c'est pareil. Tant que vous ne maîtrisez pas un minimum de choses, vous n'allez pas à l'étage au-dessus, ça c'est complètement clair. Mais moi, je pense que tout le monde est capable de faire des mathématiques jusqu'à un certain niveau et d'y trouver du plaisir. Et donc, il faut trouver l'accès et il faut y croire et il faut aussi dire aux gens « ayez confiance ». Ça ne vous donnera pas plus de pouvoir et des choses comme ça, ça vous donnera de la liberté de penser. Et être libre en ce moment, c'est drôlement important. Parce qu'on vous matraque beaucoup de toutes parts et voilà.
On vous matraque de toutes parts. Qu'est-ce que vous entendez par « on vous matraque de toutes parts » ?
On reçoit de l'information de toutes parts. Donc vous allez sur Internet, je passe ma vie à faire ça. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations, des choses très intéressantes, etc. Mais quelque part, c'est un petit peu comme si vous n'avez pas le fil, ou comme si on peut vous raconter n'importe quoi aussi. Et comment est-ce qu'on apprend à se...
À organiser sa pensée.
Voilà, oui. Exactement. Ben, ça, c'est une démarche, elle est très présente, en partie dans les mathématiques.
Merci, Nicole El-Khaoui.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Nicole El-Khaoui. À voix nue, réalisation Vincent Abouchard, prise de son Olivia Branger, attachée d'émission Claire Poinsignon, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.